Vous pouvez y aller.
Voilà. J'espère que tout le monde m'entend. Bien. Ravi de vous retrouver, en tout cas, après ces quelques mois de parenthèse, en tout cas en ce qui me concerne, pour vous parler effectivement d'un monument que vous connaissez tous. C'est un peu compliqué de venir parler d'un monument que tout le monde connaît, parce que ajouter quelque chose de nouveau à ce que vous connaissez déjà me paraît quand même un peu difficile. Voilà un défi, Monsieur le Président, qui est un peu irrelevable. Parce que je sais que vous connaissez tous la cathédrale Saint-Vincent à Châlons, et je pense même qu'il y a dans la salle, du côté de Christelle, là-bas, et de son équipe, des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi la cathédrale. Donc l'exercice auquel je me soumets aujourd'hui est un exercice des plus périlleux. Parce que décidément, la cathédrale Saint-Vincent, vous la connaissez tous, parce que la cathédrale, elle fait partie de notre paysage familier. Chacun connaît ces deux tours et leurs silhouettes qui dépassent les toits de la vieille ville de Châlons. Bref, la cathédrale fait partie de notre univers quotidien. Voilà un lieu que, vraiment, chacun ici a déjà eu l'occasion de voir, de contempler, voire même de visiter. Cela dit, je ne suis pas sûr que nous tous connaissions si bien que cela la cathédrale de Châlons. Bien sûr, on la connaît parce qu'on la voit, qu'on la regarde, que parfois même on rentre derrière ses portes. Mais je ne suis pas sûr qu'on la connaisse en profondeur. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, pas pour Christelle et son équipe, mais pour beaucoup d'entre nous, la connaissance de Saint-Vincent est plutôt une connaissance superficielle. En tout cas, je dois l'avouer, pour moi, c'était le cas jusqu'à il y a peu. C'est parce que j'ai eu à préparer cette séance que j'ai eu l'occasion de voir à quel point je méconnaissais ce monument, que pourtant je fréquente depuis mes jeunes années, c'est vous dire que ça fait longtemps, un monument que finalement je ne connaissais pas si bien que ça. Ce monument que j'ai toujours beaucoup aimé me paraissait à vrai dire un peu compliqué, embrouillé, difficile à saisir. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est effectivement embrouillé, donc difficile à saisir. Tout ça pour dire que ce monument que nous connaissons tous, je pense qu'à part certains d'entre nous ici, nous ne les connaissons pas si bien que cela, sinon de manière superficielle. La cathédrale de Châlons est un monument compliqué, en fait. Ça n'est pas comme d'autres cathédrales. Prenez la cathédrale d'Autun en Saône-et-Loire. Elle est facile. Voilà un monument, Autun, Saint-Lazare, qui a été construit à peu près d'une seule traite entre le début du XIIe et le milieu du XIIe siècle. Alors certes, à Saint-Lazare d'Autun, il y a eu des réfections, des reprises à l'époque gothique. On a refait le clocher, on l'a même reconstruit, on a repris la partie supérieure du chœur, on a construit la tribune d'orgue. Mais enfin, ces rénovations, ces reconstructions sont très visibles, très circonscrites. Et même quand Viollet-le-Duc a refait les deux tours de la façade de la cathédrale d'Autun, cette intervention viollet-lucéenne est très lisible, très visible. Un œil pas averti pourrait, je crois, les voir très facilement. Il y a d'autres cathédrales de la même manière qui, bien qu'énormes, sont très faciles à appréhender. Je sais que l'UTB est allé il n'y a pas si longtemps que ça à Amiens. La cathédrale d'Amiens est également un monument très facile à cerner d'emblée, tout simplement parce que même si elle est énorme, c'est une des plus grandes cathédrales de France, elle a été construite de manière très cohérente entre le début du XIIIe et la fin du XIIIe siècle. Alors certes, il y a eu des reprises ponctuelles, partielles, à des époques plus tardives, mais enfin la cathédrale d'Amiens se cerne assez facilement du fait de sa cohérence. Châlons, c'est tout l'inverse. La cathédrale de Châlons, aussi quotidienne soit-elle pour notre regard, est une cathédrale bien plus complexe que celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui la rend d'abord difficile effectivement à appréhender, mais aussi, j'allais dire, séduisante. Un des intérêts de la cathédrale de Châlons, c'est justement qu'elle est compliquée. Après tout, les choses compliquées peuvent être séduisantes. Il n'y a pas que la simplicité qui est facile à appréhender. La complexité aussi peut être attirante. C'est vraiment le cas de la cathédrale de Châlons, où certes, les éléments de construction s'imbriquent, où les siècles se superposent, mais qui est, je crois, un monument bien attachant, et c'est ce que je vais tenter de confirmer auprès de vous aujourd'hui. Il est vrai que si cette cathédrale que nous connaissons tous, mais que beaucoup d'entre nous ne connaissent peut-être pas si bien, et je me mets dans ce sac-là d'ailleurs, c'est parce que, avouons-le, sa façade est peut-être pas des plus, agréables. La façade de la cathédrale Saint-Vincent est considérée par beaucoup comme assez peu avantageuse. Elle est un peu ingrate, la façade de la cathédrale de Châlons, du moins c'est comme ça que beaucoup d'entre nous la voient. Et justement, je voulais, peut-être un peu par provocation, commencer cette séance en parlant de la façade. Parce que je crois que cette façade que l'on peut juger en allant un peu vite, un peu ingrate, effectivement, parce qu'elle ne date pas du Moyen-Âge, mais du XIXe siècle, cette façade est d'abord beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît a priori, et en plus elle cache un bâtiment qui, décidément, est bien plus intéressant qu'on l'imaginerait a priori. D'ailleurs, il faut préciser que la façade qui va correspondre à la première partie de cette séance n'a pas toujours été comme on la voit aujourd'hui. Je vous montre ici une aquarelle due à Jean-Baptiste Lallemand, dont vous savez qu'il a sillonné la Bourgogne au XVIIIe siècle, pour portraiturer toute une série de monuments bourguignons. Eh bien, il existe à la Bibliothèque nationale de France une aquarelle de Lallemand qui fait partie d'un recueil contenant bien d'autres de ses travaux. Une aquarelle qui d'ailleurs a été convertie en gravure. Je suis persuadé que certains d'entre vous possèdent sur les murs de leur logis une gravure réalisée au XVIIIe siècle d'après cette aquarelle de Lallemand. Aquarelle qui donc nous montre la cathédrale Saint-Vincent à Châlons à la fin du XVIIIe siècle, une dizaine d'années avant la Révolution. Et vous voyez donc la façade qui était la sienne à cette époque. Que nous montre cette aquarelle ? Elle nous montre en fait que la cathédrale Saint-Vincent possédait une façade bien différente d'aujourd'hui, une façade qui, vous le voyez, comprend deux tours et entre les tours, un pignon. La tour de droite, la tour sud, est en fait ce qui restait en cette fin du XVIIIe siècle de l'ancienne façade romane de la cathédrale. Cette tour sud, portraiturée par Lallemand dans cette aquarelle, date donc de l'époque romane, date du XIIe siècle. C'est en fait la plus ancienne des deux tours de la façade. Vous voyez qu'elle est composée d'une base simple, aveugle, au-dessus de laquelle il y a deux registres de fenêtres géminées, de fenêtres doubles, si j'ose dire. Et puis le tout, dans cette tour de droite, de cette tour sud, le tout est dominé par un dôme qui, lui, a été édifié au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle. En parallèle à la tour sud, il y a la tour nord, qui, elle, est une tour tout à fait gothique. La tour que vous voyez à gauche, sur l'aquarelle de Lallemand, est en effet une tour élevée au milieu du XVe siècle, en 1467, à l'époque de l'épiscopat d'un évêque dont on a beaucoup parlé il y a encore peu, notamment dans l'exposition du musée de Nons, qui est Jean Ier Poupée. Et c'est donc lui qui, au milieu du XVe siècle, au début de la deuxième moitié, a élevé cette tour gauche, après avoir d'ailleurs fait démolir la tour romane qui préexistait. Vous voyez qu'il y a eu, au XVe siècle, une volonté de rajeunir la façade de la cathédrale, en tout cas pour la tour nord, que Jean Poupée fait démolir et reconstruire, dans un style tout à fait gothique flamboyant. Vous voyez tout de suite sur cette aquarelle comment la tour gauche, la tour nord, est bien différente de la tour droite, la tour sud. Celle du sud est encore bien romane, celle du nord bien gothique et même tout à fait flamboyante, même si le couronnement de la tour nord, d'ailleurs un peu pauvre, semble-t-il, a lui été réalisé au XVIIIe siècle. Et puis entre les deux, entre la tour nord gothique et la tour sud romane, il y a ce qu'on pourrait appeler le pignon de la nef, qui est un petit peu composite, puisqu'on voit en bas le portail, qui semble bien daté de l'époque romane, avec un arc en plein cintre. Et puis il y a au-dessus une grande rose dans laquelle on ne voit pas de remplage. Cette rose est un peu étrange, elle est d'ailleurs surmontée, vous le voyez, d'une sorte d'accolade bien gothique. Bref, nous avons là ce pignon de la nef qui semble largement daté de l'époque romane. Voilà donc à quoi ressemblait notre cathédrale Saint-Vincent une dizaine d'années avant la Révolution française. Seulement voilà, en 89, arrive la Révolution, et il va se passer pour la cathédrale Saint-Vincent ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres lieux cultuels en France à l'époque, c'est-à-dire qu'on va la convertir en temple de la déesse Raison, du moins pour un temps, et très vite aussi, le comité révolutionnaire va décider, précisément en 1793, de la destruction des deux tours. Pour des raisons diverses, peut-être des questions d'État. Il est vrai que la cathédrale n'était plus forcément très, maintenue depuis quelques décennies, d'où parfois sans doute un État parfois très peu brillant. Mais il y a aussi que détruire les deux tours de la cathédrale était, je dirais, priver la cathédrale, cet édifice religieux, de ce qui en faisait, je dirais, l'importance. Et on sait à quel point la Révolution s'est attachée à éliminer les symboles de ce qu'elle combattait. La destruction de ces deux tours de la façade commence en 1793. Elle s'achèvera deux ans plus tard, en 1795, date à laquelle la cathédrale devient un peu tout. C'est un lieu qui sert d'écurie, de magasin pour le fourrage. Bref, la cathédrale Saint-Vincent devient un édifice un peu en déshérence jusqu'au début du XIXe siècle, puisque en 1801, avec la signature du Concordat, on va bien entendu décider d'un sort nouveau pour cette cathédrale que la Révolution avait, complètement modifiée dans l'utilisation qu'on pouvait en faire. D'ailleurs, en ce début du XIXe siècle, la cathédrale est en très mauvais état. Elle est assez dangereuse. Le fait d'entrer à l'intérieur va même faire l'objet, à certains moments, d'interdictions. Ce qui fait que, bien vite, les édiles de la ville vont décider, en ce début du XIXe siècle, de reconstruire la façade que l'on avait détruite quelques décennies auparavant. C'est ainsi que, en 1822, un architecte que l'on connaît assez mal, enfin que je connais assez mal, et qui s'appelle Zola, je ne connais même pas son prénom, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, mais peut-être ici certains ou certaines en savent davantage. Ce Zola donc, dont on connaît d'ailleurs un certain nombre de travaux dans le Chalonnais, va être mandaté par les édiles pour réaliser un projet de reconstruction de la façade de la cathédrale. Ce projet, vous l'avez là. C'est un projet assez intéressant, qui est donc assez précoce, 1822. Intéressant parce que c'est un projet très, comme on le dit pour cette période, très troubadour. Un projet qui a pour but de redonner à la cathédrale une allure gothique, plus gothique, je dirais, tu meurs, et un gothisme tel qu'on le voit au début du XIXe siècle. C'est-à-dire pas un gothique archéologique tel que celui que l'on va redécouvrir dans les décennies qui suivent, mais un gothique que je qualifierais d'un peu naïf ou en tout cas d'un peu particulier. Et ce projet de Zola, visiblement, n'a pas eu l'heure de plaire aux autorités qui devaient donner leur aval pour que la construction de ce projet se fasse et soit réellement réalisée. Ce qui fait que le Conseil des bâtiments civils va finalement décider de ne pas incarner ce projet, qu'il va juger un peu trop insuffisant. Bref, le projet de Zola est donc de Zola, l'autre Zola, pourrait-on dire, est tout à fait écarté. Bientôt, le Conseil des bâtiments civils, qui donc vient de refuser le projet précédent, va décider de proposer aux édiles de Châlons un nouvel architecte qui commence à connaître une certaine notoriété, un architecte originaire de Lyon et qui s'appelle Antoine-Marie Chenavard. Vous savez, là, la frimousse de ce Chenavard-là, par un personnage qui n'est pas n'importe qui, puisque le portrait que vous voyez là est réalisé par Ingres en 1818, eh bien, c'est à ce jeune et sémillant architecte plein de talent et d'avenir que le Conseil des bâtiments civils conseille la ville de Châlons pour qu'il réalise un nouveau projet pour réédifier la façade de la cathédrale démolie maintenant depuis à peu près trois décennies. Chenavard n'est pas tout à fait le premier venu. Hein. Je vous rappelle que c'est lui qui, par exemple, construira en 1831, quelques années plus tard, le fameux Opéra de Lyon. Peut-être plus fameux d'ailleurs pour la reprise par Jean Nouvel dans les années 90 de la partie supérieure de l'opéra, mais qui fait un peu oublier la partie inférieure due à Chenavard, qu'il a réalisé après la cathédrale de Châlons, mais qui est un monument bien digne d'intérêt. Vous voyez que ce Chenavard n'est pas un inconnu, c'est un personnage tout à fait intéressant, d'ailleurs si intéressant que le projet de Chenavard va bientôt être adopté. Ce projet de Chenavard, vous le voyez, c'est en 1824 que Chenavard livre l'esquisse de son projet pour la cathédrale de Châlons. Cette esquisse, vous la voyez là, elle date encore une fois de 1824, cette esquisse, mais elle a été gravée quelques années après, et c'est bien la gravure d'après l'esquisse de Chenavard que je vous montre ici. En tout cas, le projet, cette fois, aura l'heure de plaire au Conseil des bâtiments civils, qui va l'adopter en 1826, ce qui va permettre la mise en exécution des travaux dès l'année 1827. Le projet de Chenavard est donc tout à fait validé. Le problème, c'est que en ce début du XIXe siècle, et notamment à Châlons, parfois les finances manquent, et ça va être le cas pour le projet, puisque les travaux débutés dès 1827 vont bientôt être suspendus, et en 1831, les finances manquent et le chantier est arrêté. Quelques années plus tard, 6 ans après, en 1837, le projet va reprendre, mais pour de nouveau s'arrêter quelques années plus tard. Entre-temps, d'ailleurs, Chenavard a un peu jeté l'éponge. Ce jeune architecte qui a conçu ce projet-là est en effet appelé à d'autres ambitions et d'autres destinées, notamment l'Opéra de Lyon que l'on vient de voir, mais aussi d'autres projets encore. Ce qui fait que le projet imaginé par Chenavard va être repris par un autre architecte qui s'appelle Louis-Hippolyte Lebas. Lebas est un architecte qui compte dans le paysage architectural de la France de la première moitié du XIXe siècle. C'est lui notamment qui a réalisé le projet de l'église Notre-Dame de Lorette à Paris. J'aurais pu mettre une diapositive, je ne l'ai pas fait, mais vous connaissez tous l'église Notre-Dame de Lorette, sûrement. En tout cas, Lebas est lui aussi un architecte bien intéressant qui donc reprend le projet de Chenavard et qui est donc, si vous voulez, mandaté pour poursuivre le projet en question. D'ailleurs, les travaux arrêtés vont bientôt reprendre à partir de 1841 et c'est en 1847 que les travaux enfin seront tout à fait terminés. La façade que vous voyez aujourd'hui est donc la façade érigée, terminée en 1847. Elle est décidément l'œuvre de Chenavard, mais terminée par Lebas. Je tiens à dire d'ailleurs qu'entre le projet de Chenavard et sa réalisation par Lebas, il n'y a presque pas de différence. Oh, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas énormes. La différence principale, c'est celle concernant le porche, ou plutôt le portail, comme vous voulez. Parce que vous voyez que dans le projet Chenavard, le porche d'entrée, le portail de la cathédrale, est un portail, je dirais, très simple, qui s'ouvre sur la façade directement, sous une corniche elle-même, sous la rosace, alors que Lebas, et c'est vraiment la seule modification majeure qu'il y a entre les deux projets, va quant à lui proposer d'ajouter, pour, je dirais, enrichir le projet de pignon de la nef, va proposer d'ajouter au-dessus du porche une sorte de terrasse qui coiffe donc le porche et une espèce de gable qui vient se détacher sur la terrasse. C'est là, je dirais, la modification majeure due à Lebas par rapport à Chenavard. Il y a d'autres modifications de détail, mais qui sont moins prégnantes. On peut souligner, voire célébrer d'ailleurs, la fidélité de Lebas par rapport au projet précédent. Notons d'ailleurs que peut-être si Lebas a voulu je dirais, mettre plus en valeur le porche de la cathédrale, c'était peut-être parce que le porche en question, le portail en question, comprend des vantaux qui sont très beaux, et je vous montre à gauche, là, une vue de ce porche de le bas plaqué sur le projet de Chenavard, et à droite, je vous montre les vantaux du portail de la cathédrale, et justement, ces vantaux du portail, que l'on regarde, à mon avis, pas assez aujourd'hui, sont bien dignes d'intérêt, parce que ces vantaux-là sont d'abord des éléments datant du XVIIIe siècle, on a là de très beaux vantaux rocailles, datant grosso modo du milieu du XVIIIe siècle, et il s'agit bien là sans doute des vantaux originaux de la façade du XVIIIe siècle de la cathédrale. C'est-à-dire ce que vous voyez là sur la diapositive de droite, c'est bien le portail qui était le portail en bois, hein, les vantaux en bois représentés par l'Allemand dans son aquarelle d'avant la Révolution française. On a donc là la réutilisation sans doute du portail originel à l'intérieur du projet Chenavard-le-Bas. C'est décidément un très beau portail, enfin rocaille. Sur les deux médaillons du reste de ce portail apparaissent deux des saints tutélaires de la ville, Saint-Vincent, bien sûr, à gauche, et à droite, Saint-Étienne. C'est d'ailleurs les mêmes Saint-Vincent et Saint-Étienne que l'on voit sur les médaillons des vantaux du portail, que l'on retrouve dans les deux statues qui flanquent le portail à droite et à gauche, dont cette statue de droite, représentant Saint-Étienne, bien reconnaissable notamment aux pierres qu'il tient dans sa main droite, tant il est vrai, vous le savez, que Saint-Étienne a été lapidé. Ce sont donc les pierres de son martyr qu'il tient traditionnellement dans l'iconographie depuis le Moyen-Âge auprès de lui. Je précise d'ailleurs que dans ces travaux correspondant à la façade de la cathédrale, on a, dans la foulée, également travaillé à la réalisation de la tribune d'orgue qui, après tout, est à l'arrière de la façade. La très belle tribune d'orgue que vous voyez ici a donc été réalisée à la même époque. Elle est, semble-t-il, terminée en 1845. On va ensuite y mettre l'orgue par-dessus. On a donc là vraiment un projet qui, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur, marque, si vous voulez, de manière tout à fait intéressante, la cathédrale en question. Notez que le décor sculpté n'est pas absent de ce projet Chenavard-le-Bas, puisque les deux tours de la cathédrale vont être décorées de 16 statues monumentales. Elles ne l'apparaissent pas tant quand on est en bas, et en fait elles font chacune 3 mètres de haut, ces statues sont vraiment importantes. Elles ont été réalisées par un sculpteur originaire de Beaune, dont la notoriété n'est peut-être pas immense, qui s'appelle Étienne de Sapt. C'est lui qui a réalisé ces 16 figures, qui sont en fait des représentations à la fois des patrons d'un certain nombre des quartiers de la ville, ou des patrons d'un certain nombre d'établissements religieux de la cité. Ces statues très longiformes, qui d'une certaine manière tentent de reprendre l'idée des statues-colonnes qui ornaient jadis les cathédrales, notamment les pieds droits, les portails de celles-ci, sont là pour accompagner l'architecture de Chenavard et de Lebas. Notons quand même que cette façade n'a pas forcément été très bien accueillie au moment de sa réalisation. Et je crains qu'aujourd'hui, elle ne le soit pas non plus toujours aussi bien qu'elle ne devrait l'être. Parce que, certes, cette façade peut un peu repousser. On préférerait peut-être avoir la façade de Bourges ou celle de Reims devant la cathédrale de Châlons. Mais que voulez-vous, nous l'avons détruite. Eh bien, on l'a reconstruite. Et au XIXe siècle, c'est ainsi. Alors bien sûr, on dit parfois, et dès le XIXe siècle, Victor Hugo lui-même s'en est un peu mêlé, on a pu dire que cette façade était un peu sèche, que les tours étaient un peu grêles, qu'elle était maigre, qu'elle était aride, autant de mots que l'on trouve dans les recensions critiques du XIXe siècle. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, et c'est peut-être là une des gloires chalonnaises, c'est qu'il s'agit d'un tout d'une des toutes premières façades néo-gothiques construites en France. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. J'allais dire que Chalon a essuyé les plâtres. Hein. Cette architecture néo-gothique qui bientôt va envahir la France, voire l'Europe entière, eh bien, elle débute en quelque sorte ici, à Chalon. Chalon a la gloire d'avoir une des toutes premières grandes façades néo-gothiques construites en France. Alors, elle n'est peut-être pas réussie à 100%, mais elle n'est pas non plus ratée à 100%. On a là des volumes qui, avec une relecture, sont bien plus intéressants qu'il n'y paraît. Et encore une fois, on a là une sorte de prototype qui, à lui seul, peut faire la gloire de cette façade occidentale. Regardons donc avec de nouvelles lunettes cette façade-là, bien plus intéressante qu'il n'y paraît, bien plus rare aussi. Chalon peut s'enorgueillir de posséder ce monument-là. Un monument qui, cela dit, il y a quelques années, a posé quelques problèmes de solidité. Quelques-uns parmi vous qui habitent cette ville depuis longtemps ont sans doute vu, dans les années 80-90, que des étais de bois étaient venus petit à petit garnir, notamment les tours de la cathédrale, tout simplement parce que les fondations commençaient à poser problème et que par-dessus les tours elles-mêmes avaient tendance à s'affaisser. Alors, des travaux de restauration importants ont été réalisés au début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000, hein, qui ont permis de reprendre complètement les fondations de la façade et la façade elle-même. C'est Frédéric Didier, vous le savez, l'architecte en chef des monuments historiques chargé de ce monument, qui a réalisé ces travaux largement. Et maintenant, cette façade nous apparaît d'une manière beaucoup moins désordonnée, et je crois que ces travaux permettent de lui rendre justice. Alors, je ne suis pas venu aujourd'hui simplement pour vous parler de cette façade, mais je tenais à commencer par elle, encore une fois, parce qu'elle me paraît bien plus intéressante qu'il n'y paraît. Mais je voudrais bien sûr, maintenant que nous entrions derrière la façade et que nous allions voir le reste de la cathédrale. Le reste de la cathédrale, qui lui est bien médiéval, et je le disais d'entrée, un peu compliqué à envisager. Alors, pour m'aider dans la restitution que je vais tenter de faire aujourd'hui de la lecture de la cathédrale médiévale de Chalon, je me suis aidé des écrits réalisés par ceux qui l'ont mieux que personne étudié. Je pense en particulier à Nell Stratford ou à Yves Gallet qui ont récemment écrit, récemment, il y a déjà une décennie à peu près, de beaux textes sur cette cathédrale. Et il y en a d'autres aussi que j'oublie certainement. Frédéric Didier lui-même a aussi écrit sur la cathédrale et notamment sur cette fameuse façade. Eh bien, je vais tenter de restituer un peu cette sorte d'enchevêtrement qui est celui de la cathédrale médiévale de Chalon-sur-Saône, en commençant, c'est le deuxième chapitre de mon exposé, par la cathédrale romane. Une cathédrale dont le site est, à vrai dire, occupé très tôt. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on va à l'arrière, à l'est de la cathédrale, et qu'on baisse les yeux au pied du chevet de la cathédrale elle-même, on voit un gros mur, un peu aride, si j'ose dire. Ce gros mur est important, puisque vous le savez, c'est un reste du rempart antique qui, jadis, ceinturait la ville. Et d'ailleurs, dans la diapositive que vous avez là, vous remarquez, en bas à droite, ici, les restes de ce mur gallo-romain contre lequel est sise la cathédrale. Il faut préciser que, a priori, le site actuel de cette cathédrale, dont les vestiges que l'on voit aujourd'hui datent de l'époque romaine et de l'époque gothique, sans parler de la façade qui date du XIXe siècle, le site de la cathédrale est bien le site de l'ancien grand sanctuaire qui, dès le tout début du Moyen-Âge, existait déjà dans la ville. Quand on regarde les textes, notamment ceux de Sidoine Apollinaire au 5e siècle ou ceux de Grégoire de Tours au 6e siècle, on note qu'on nous parle déjà d'une ecclésia, d'une grande église qui est sise à Chalon dans les remparts, vraisemblablement déjà sur le site qui est celui de l'actuelle cathédrale Saint-Vincent. On nous dit même qu'au 5e siècle, l'évêque Agricola avait contribué là à construire cet édifice, qu'il avait fait parer de marbre et de mosaïque. On n'a plus rien aujourd'hui, plus d'éléments vraiment très clairs de cette ecclésia d'origine. même si certains éléments ont sans doute été prélevés, voire remployés dans des édifices postérieurs à Châlons ou à l'extérieur. En tout cas, cette ecclésia primitive, pour l'instant, reste un peu, si j'ose dire, dans les nimbes. Ce que l'on sait, c'est que dès le 7e siècle, cette ecclésia va être dédiée à Saint Vincent, tout simplement parce que des reliques de ce saint originaire d'Espagne, originaire de Saragosse, vont être amenées à la cathédrale, à une époque précise, étant des conditions que l'on ignore, semble-t-il, mais qui font que la cathédrale va donc être dédiée à ce saint personnage, dont le prénom même en fait, vous le savez, le patron du vin, hein, ou de la vigne. Vincent, vin, il y a là évidemment des éléments qui se conjuguent. En tout cas, cette cathédrale, sise depuis le très haut Moyen-Âge dans ce secteur, blottie contre le rempart de la ville antique, dont les vestiges sont toujours bien visibles aujourd'hui, cette cathédrale romane va faire l'objet d'un certain nombre d'étapes de construction. Je vous montre ici un plan de la cathédrale Saint-Vincent de Châlons tel qu'elle se présente aujourd'hui. Alors vous avez là le plan actuel, mais bien entendu la cathédrale romane ne ressemblait pas du tout à cela. Si on essaie sur ce plan de désigner les éléments romans qui sont encore aujourd'hui visibles, hein, dans la cathédrale, il faudrait d'abord parler des deux absidioles qui cantonnent le chœur au nord et au sud. Je rappelle que l'est est sur la droite, bien sûr. Il faudrait également parler des deux premières travées du chœur, pas du chevet, hein, pas de l'abside du chevet, qui, elle, est plus tardive. Il faudrait parler également du transept, hein, et puis il faudrait parler enfin de la nef et partiellement des bas-côtés. Voilà aujourd'hui les éléments de la cathédrale romane encore subsistants, mais des éléments qui ne concernent presque exclusivement que le rez-de-chaussée de l'édifice. Parce que si les cinq éléments que je viens de vous montrer datent bien de l'époque romane, même si parfois ils ont pu être revus, repris, c'est bien à peu près exclusivement, uniquement, les parties inférieures de l'édifice, les parties du rez-de-chaussée de celui-ci, qui datent de l'époque romane. Et si de ce plan, on passe à une élévation en coupe de la cathédrale, que voilà, eh bien les parties romanes sont celles que vous allez voir s'afficher là. Il s'agit des deux premières travées du chœur, je vous en ai parlé, du transept, dont les parties romanes semblent monter relativement haut, même si cette question est assez discutée, et puis de la nef, mais uniquement pour la partie inférieure. Je pense qu'en recoupant le plan que je viens de vous montrer et l'élévation que vous avez là, vous voyez bien tout de suite ce qui est roman, ce qui appartient à l'édifice roman, par rapport à ce qui appartient à l'édifice gothique, dont nous parlerons dans le troisième et dernier chapitre. Alors, si on essaie de voir en détail les éléments romans existant encore, et que je viens de vous y situer aussi bien sur le plan que sur la coupe élévation que je viens de vous montrer, commençons par les parties les plus anciennes, qui sont les deux absidioles, vous savez, celle qui est au sud et celle qui est au nord. Voilà une vue intérieure de l'absidiole nord, qui n'est peut-être d'ailleurs pas des plus avantageuses, parce que cette absidiole, d'abord, a été recouverte de peinture au XIXe siècle, d'ailleurs extrêmement noircie, sans doute par la fumée des cierges des fidèles. En plus, il y a déjà un certain nombre d'années, un certain nombre de sondages ont été faits à travers ces enduits peints du XIXe siècle pour essayer de retrouver les témoins de peintures murales plus anciennes. Ces sondages carrés ou rectangulaires, vous les voyez, ce sont eux qui constellent, vous les voyez ici ou là, hein, qui constellent les murs, les parois de cet absidiole. Vous savez d'ailleurs qu'il y a quelques décennies, ces travaux ont permis, dans la partie supérieure de l'abside, dans le cul de four de l'abside, qui somme l'absidiole en question, de retrouver des restes d'une peinture présentant un Christ à majesté, une peinture d'ailleurs plus tardive que l'absidiole elle-même. Cette absidiole correspond, si vous voulez, à la première phase de construction de la cathédrale romane. parce que la cathédrale Saint-Vincent va faire l'objet de du tout début du XIIe, voire même de la fin du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIe siècle, d'une sorte de premier chantier qui va doter Châlons, après la vieille ecclésia du haut Moyen-Âge, d'une cathédrale romane moderne, pourrait-on dire, dont les travaux vont donc débuter à l'est, pour aller ensuite vers l'ouest, et les éléments les plus anciens sont donc les deux absidioles en question. Cette absidiole nord, on peut la dater des alentours de 1110-1120, et à l'extérieur du monument, l'absidiole en question est tout à fait lisible. Vous la voyez... Ah, pardon, je vais plutôt utiliser ceci, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez ici l'extérieur de l'absidiole nord. Cette absidiole est donc, je vous le disais, tout à fait romane. À l'extérieur, l'élévation que vous voyez là date bien des années 1110-1120, ce qui n'est pas le cas du chevet qu'il y a ici, qui lui est tout à fait gothique, ni même de cette tourelle d'escalier qui est plus tardive. Cette absidiole nord, romane, du début du XIIe siècle, est donc bien lisible, comme sa pendante, si j'ose dire, l'absidiole sud, dont vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. C'est d'ailleurs assez curieux, parce que ce qui marque après tout souvent l'architecture au Moyen-Âge, mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, c'est une certaine symétrie. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas à Châlons. C'est-à-dire que l'abside au nord est beaucoup plus importante que l'abside du sud, comme vous le voyez là, d'ailleurs. Ça, c'est l'abside sud, décidément bien plus étroite, comme vous le remarquez, que l'abside nord. Notez d'ailleurs que cette pauvre abside sud, datable de la même période, 1110-1120, a été éventrée au XIXe siècle, puisqu'on a creusé à l'intérieur de l'abside cette porte, tout simplement pour avoir un accès direct à la sacristie qui est derrière. Mais à l'époque romane, cette abside était pleine. En tout cas, ces absides nord et sud, datables des premières décennies du XIIe siècle, sont dotées de très beaux décors, datables donc de ces années, notamment au niveau des chapiteaux ou des soubassements des colonnes. Vous voyez là quelques vues dans l'abside sud de ces décors en question. Très beaux décors, tout à fait typiques de ce que l'on voit, notamment en Bourgogne, à cette période. Après ces deux absidioles qui cantonnent le chœur au nord et au sud dont nous venons de parler, le chœur va faire l'objet, à cette époque romane, d'une deuxième campagne de travaux que l'on situe dans les années 1130-1140. Et quand je dis que le chœur va faire l'objet de travaux, c'est ce qui est visible aujourd'hui, surtout la partie inférieure du chœur. Certes, le chœur roman devait se déployer complètement, mais aujourd'hui, les seuls éléments du chœur roman existant sont les arcatures inférieures du chœur en question. Autrement dit, ce que vous voyez là, ça, c'est roman, ça date des années, comme je vous le disais à l'instant, 1130-1140, mais la partie supérieure, nous en reparlerons tout à l'heure, elle est gothique. Je vous ai dit que la cathédrale de Châlons était compliquée. Je ne vous ai pas menti. Il y a vraiment des enchevêtrements, des superpositions complexes. En tout cas, cette partie inférieure du chœur de la cathédrale, bien visible aujourd'hui et qui date de l'époque romane, concerne, vous voyez, les deux travées du chœur et absolument pas le chevet. Ces deux arcades inférieures de cette élévation du chœur sont tout à fait intéressantes parce qu'en fait, elles se réfèrent en ce deuxième quart du XIIe siècle au gros modèle qui est le modèle majoritaire de la Bourgogne du temps, qui n'est autre que Cluny III. C'est-à-dire qu'on a là, à Châlons, la volonté de reprendre d'une manière moins monumentale et plus modeste la grande église, la major ecclesia que vous connaissez, qui est celle de Cluny III. La différence est que Cluny III n'existe plus, mais que Châlons existe encore. Après tout, cocorico. C'est intéressant parce que en proposant ce programme-là, on voit que Châlons se place dans la lignée d'autres églises, d'autres projets qui, à la même époque, dans cette première moitié du XIIe siècle, fleurissent en Bourgogne. Je pense à Saint-Lazare d'Autun, je pense à Notre-Dame de Beaune, qui, à leur tour, vont également prendre comme modèle Cluny III, comme le fait Châlons avec le chœur de Saint-Vincent. Un des détails que l'on voit d'ailleurs et qui nous rappelle ces grands modèles, c'est en particulier les pilastres cannelés qui sont proposés dans ce chœur de Chalon. Et puis il y a également toute une série de chapiteaux qui rappellent beaucoup ces exemples clunisiens. Je pense en particulier à un chapiteau corinthien tel que celui que vous voyez là. Et puis c'est dans le chœur que se trouvent deux chapiteaux réalisés dans ce deuxième quart du XIIe siècle, deux chapiteaux particulièrement intéressants parce que historiés, vous les voyez ici, ces chapiteaux qui sont placés, vous le voyez, au-dessus des pilastres cannelés, ces cannelures-là sont bien originales, deux chapiteaux qui sont intéressants parce qu'ils se situent au niveau de l'autel et ils représentent deux scènes qui sont placées là pour des raisons assez évidentes. D'abord, la scène du repas d'Emmaüs, hein, vous connaissez cette scène, le moment où le Christ se fait reconnaître par deux pèlerins en rompant le pain. Assez normal qu'une telle scène se trouve dans le chœur, non loin de l'autel, qui justement s'y trouve. Et puis juste à côté, une autre scène qui représente le fameux noli me tangere, c'est-à-dire le moment, vous le savez, où le Christ, après sa résurrection, apparaît à la Madeleine et lui demande de ne pas le toucher. Elle doit croire sans toucher, hein. La foi, c'est ça, après tout. Pas étonnant de voir là aussi cet épisode placé à cet emplacement-là du chœur. Notez que ces sculptures, là aussi, rappellent beaucoup hein, les sculptures réalisées à Cluny, dans le cadre, encore une fois, de la Maior Ecclesia. Quand on voit certaines des sculptures, souvent très mutilées, du tympan de Cluny, telles qu'elles sont visibles au musée Auchier aujourd'hui, on retrouve là un parallèle. On a pu d'ailleurs penser que le sculpteur qui a réalisé à Chalon les chapiteaux en question s'est formé largement sur le chantier de Cluny III auparavant. Autre chapiteau que l'on voit dans le chœur et qui date de cette même période, 1130-1140, ce très beau chapiteau à feuilles d'acanthe qui là aussi trouverait des parallèles dans le fameux chantier modèle de Cluny. Le transept, et nous voilà justement dans le transept, lui-même a été en partie, tel qu'on le voit aujourd'hui, construit à la même époque. Et d'ailleurs, certaines parties supérieures aux arcades inférieures du transept semblent bien datées également de cette période, c'est-à-dire du deuxième quart du XIIe siècle. Même si le transept a été, et notamment les bras du transept, repris et revoûtés plus tard, et que la croisée du transept, elle, date plutôt de l'époque gothique. Notons d'ailleurs que dans la création, la construction de ce transept, semble-t-il, dans le deuxième quart du XIIe siècle, on a même remployé des éléments antérieurs. Par exemple, il y a un chapiteau très intéressant à la croisée du transept, au sud-est du transept, si ma mémoire est bonne, qui représente Adam et Ève, que vous voyez là, et qui semble bien être un chapiteau du XIe siècle. On aurait donc là remployé dans la deuxième moitié du XIIe siècle, quand on réalise le transept, un chapiteau datant du XIe siècle et peut-être repris d'après de l'Église précédente. Vous voyez, il y a là une sorte de remploi qui nous montre ce dont le Moyen-Âge montre mille autres exemples, hein, c'est-à-dire la reprise d'un élément plus ancien dans un édifice plus moderne. Voilà, enfin, la troisième phase de cette cathédrale romane que je vous propose de voir, qui correspond à la nef, puisque après les deux absidioles, nord et sud, après les deux premières travées du chœur et le transept, c'est bien la nef qui fera l'objet, mais cette fois dans les années 1140-1150, au milieu du XIIe siècle, du grand chantier roman qui a permis la construction de la nef, mais qui aujourd'hui ne s'offre à nous pour les parties romanes que dans la partie inférieure. Hein. Je vous remets en tête l'élévation que je vous montrais tout à l'heure. Ce qui est roman, c'est bien la partie inférieure, hein, mais pas les parties supérieures qui sont gothiques et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette nef romane construite en gros au milieu du XIIe siècle, c'est que, elle suit la nef en quelque sorte. Elle suit le chœur, pardon. On va construire cette nef romane dans la foulée, dans la lancée des deux travées du chœur, clunisienne, pourrait-on dire, que je vous ai montré tout à l'heure. On sent là qu'il y a la volonté d'une sorte de programme cohérent, après avoir construit les absidioles, les deux premières travées du chœur, puis le transept, eh bien, on construit la nef un peu plus tard, hein, je vous l'ai dit, la cathédrale romane est construite d'est en ouest, mais toujours avec une même cohérence stylistique qui est celle du grand modèle de Cluny III. Et voilà donc cette nef dont je vous montre là un détail. Par contre, ne nous méprenons pas, parce que si effectivement ces arcades qui sont romanes et qui sont celles de la partie inférieure de la nef datent bien du milieu du XIIe siècle, en revanche, elles ont été pas mal reprises plus tard, et notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il se trouve que dans les années 1860, le chanoine Gardette va décider de moderniser la cathédrale. Et cette modernisation a eu notamment comme effet, dans la nef de la cathédrale, de canneler les pilastres qui ne l'avaient pas été. C'est-à-dire que les cannelures que vous voyez là sur les pilastres ont été réalisées au XIXe siècle, dans les années 1865-67, par l'abbé Gardette, enfin pas par lui, mais par des ouvriers qui ont été mandatés par lui, sans doute d'ailleurs pour donner une nature, une allure, j'allais dire, plus cohérente par rapport au chœur qui lui avait des cannelures, et pour, j'allais dire, proposer cette cohérence dans toute la cathédrale, il a fait réaliser ici les cannelures en question qui n'apparaissaient pas précédemment puisque les pilastres étaient lisses. Et non content d'avoir cannelé des pilastres qui ne l'étaient pas, le chanoine Gardette en question va également faire les chapiteaux que vous voyez là. Tous les chapiteaux que vous voyez sur la nef ici ont été réalisés dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans cette volonté réformiste, pourrait-on dire, du chanoine Gardette, qui certes les a fait réaliser dans un style roman, d'ailleurs assez savoureux, mais encore une fois, voyez là, des éléments qui ne sont pas du tout médiévaux, mais du XIXe siècle, même s'ils essaient, par leur style néo-roman, de copier l'époque médiévale. Je vous montre ici d'ailleurs un détail. Hein. Vous voyez à droite un chapiteau de pilastres réalisé sous la férule du chanoine Gardette dans ces années 1865-67, alors qu'à gauche, vous voyez un chapiteau roman qui, lui, date bien du XIIe siècle. Notez d'ailleurs que la main du chanoine Gardette a été sans doute parfois un petit peu lourde, parce que les ouvriers qu'il a mandatés pour réaliser ses travaux de décor ont certes amené à la réalisation des cannelures, des chapiteaux de pilastres dont je vous ai parlé, mais quelquefois on a un peu débordé. Il semble que les ouvriers du chantier, drivés, si j'ose dire, pour parler bien français, par Gardette, ont parfois été jusqu'à reprendre un peu les chapiteaux médiévaux eux-mêmes. Et dans les chapiteaux médiévaux de la cathédrale, on a parfois un petit peu de mal à voir quelles sont les parties vraiment médiévales et les éléments qui ont pu être revus à l'époque du chanoine Gardette. Je précise d'ailleurs que la plupart des chapiteaux des deux bas-côtés de la nef datent aussi du XIXe siècle. Hein. C'est important de le savoir. Je vous montre d'ailleurs ici une vue d'un des bas-côtés. Ces bas-côtés, qui sont partiellement romans, ont été quand même beaucoup repris au XIXe siècle, en particulier pour les chapiteaux sculptés qui les ornent. Alors, même si ces éléments romans de la nef de la cathédrale Chalon ont été revus, repris au XIXe siècle, la cathédrale peut s'enorgueillir d'avoir malgré tout un très très bel ensemble de chapiteaux datant du XIIe siècle. Un des plus importants de Bourgogne d'ailleurs. Hein. Et ça n'est pas très connu. Voilà, par exemple, un des chapiteaux certainement les plus intéressants de la nef romane de la cathédrale de Châlons, qui représente, vous le voyez, l'offrande d'Abel et de Caïn. Vous connaissez, hein, Abel offre un agneau, Caïn offre des céréales, pourrait-on dire, du blé. Et vous savez que c'est le sacrifice d'Abel qui va être choisi par Dieu contre celui de Caïn. Et vous connaissez la suite, Caïn va tuer Abel. Vous connaissez bien sûr cet épisode fameux. Eh bien, c'est lui qui est ici représenté par un artiste tout à fait intéressant qui doit vous rappeler quelqu'un, qui vous rappelle tout simplement Gisle Bertus. Gisle Bertus, vous le connaissez, c'est le sculpteur de la cathédrale d'Autun. Eh bien, on a là un chapiteau qui n'est peut-être pas de Gisle Bertus, mais qui est en tout cas très gislebertien, si j'ose ce néologisme. Un chapiteau qui vraiment pourrait être à Autun sans étonner qui que ce soit. On a là, après, vous le voyez, un modèle qui est le chantier clunisien dans les cédilles précédentes, un autre chantier qui va essaimer de Autun vers Châlons, c'est ce chantier-là. D'autres chapiteaux qui ornent la nef de la cathédrale sont à mettre, je dirais, dans cette mouvance gislebertienne. Et c'est par exemple ce très beau chapiteau à feuillage que vous voyez là. D'autres chapiteaux encore sont, eux, à mettre en lien avec d'autres modèles que l'on peut voir dans d'autres lieux de Saône-et-Loire, notamment ces chapiteaux très caractéristiques, avec un feuillage qui forme deux sortes de collicoles en Y. On a là, dans toute une série d'édifices, notamment de Saône-et-Loire, ce genre de poncif qui, vous le voyez, est également à l'œuvre à Châlons. D'autres chapiteaux, comme ce très beau chapiteau avec deux aigles, trouveraient également des parallèles dans toute une série d'églises de la région, que je n'ai pas le temps ici de citer. Et puis il y a, chose curieuse, des chapiteaux qui nous emmènent carrément un petit peu plus loin. Par exemple, ce très beau chapiteau aux sirènes fait plutôt penser à des œuvres réalisées tout à fait dans le nord de la Bourgogne, voire même en Île-de-France. Tandis que d'autres chapiteaux, comme ce très curieux chapiteau avec un monstre qui, vous le voyez, crache des sortes d'arabesques végétaux, lui trouverait des parallèles dans le Bourbonnais. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que dans ce chantier de la nef de la cathédrale de Châlons, datable des années 1140-1150, milieu du XIIe siècle, on a affaire, certes, à un modèle qui suit le modèle clunisien, en cohérence avec le chœur construit précédemment, mais qui fait intervenir une équipe un petit peu hybride, qui certes est un peu, j'allais dire, ossaturée par des gens qui ont pu travailler au Autun, mais également un certain nombre de talents qui viennent, eux, d'horizons plus divers. En tout cas, un des chapiteaux les plus séduisants qui ornent la nef de la cathédrale de Châlons et qui date de ce milieu du XIIe siècle est certainement celui-ci, qui est d'ailleurs au revers de la façade. Ce chapiteau tout à fait passionnant montre l'épisode fameux de l'ascension d'Alexandre. Alors vous connaissez peut-être cet épisode, hein, dont j'ai eu l'occasion de parler sous d'autres cieux, je crois. Vous savez, vous connaissez l'empereur Alexandre, hein, le grand empereur de l'Antiquité grecque, bien sûr, hellénistique. Eh bien, la légende alexandrine ne veut qu'un jour Alexandre a souhaité monter au ciel. C'est pas si simple de monter au ciel au IVe siècle avant notre ère. Alors, il a trouvé un stratagème, nous dit-on. Il a fait capturer deux griffons. Les griffons sont des animaux fantastiques, à la fois aigle et lion. Et il les a fait amarrer à un char dans lequel lui-même s'est placé. Et pour que les griffons montent avec leurs ailes vers le ciel, emmenant avec eux Alexandre, eh bien, il a mis au bout de deux lances qu'il tenait, de gros quartiers de viande, pour les tenir au-dessus de la tête des griffons, et pour les tenir tellement en permanence que les griffons montant pour essayer de manger la viande, eh bien, faisaient monter en même temps Alexandre et le char dans lequel il se trouvait. Voilà un moyen, n'est-ce pas, de monter vers le ciel, que je vous livre si certains d'entre vous en ont envie. Alors, après tout, il n'y a pas qu'Elon Musk au monde, hein, il faut aussi... Vous savez que cet épisode légendaire, hein, de la tradition d'Alexandre a été repris par la tradition chrétienne parce que l'histoire nous confie qu'Alexandre, après avoir tenté de monter vers les cieux avec ses deux griffons, n'y est pas, à vrai dire, véritablement parvenu. Il est monté jusqu'à un certain niveau, mais il a dû se rendre à l'évidence, il ne pouvait pas aller jusqu'en haut, jusqu'au soleil, jusqu'au tréfonds des cieux, alors il a dû redescendre. Évidemment, cette histoire-là, venant de l'Antiquité, était pain béni pour la tradition chrétienne, hein, c'était une manière, je dirais, très imagée de souligner le péché d'orgueil. Hein. On veut monter très haut et on n'y arrive pas, même quand on s'appelle Alexandre. Retrouver ça dans l'iconographie chrétienne est donc finalement assez logique, et vous voyez que c'est ce que l'on voit à la cathédrale de Châlons. C'est intéressant parce que cette iconographie qui n'est pas unique, hein, on connaît à l'époque romane d'autres exemples du même genre, n'est en même temps pas très fréquente, et Châlons a la chance, parmi la très belle collection de chapiteaux romans que conserve la cathédrale. Encore une fois, ces chapiteaux, on ne les regarde pas trop, ou alors on les mélange avec ceux du XIXe siècle, ça crée une sorte de bouillie dans laquelle on ne sait pas très bien quoi regarder. Eh bien, regardons mieux les chapiteaux du XIXe et ceux de l'époque romane. Châlons possède un des plus bels ensembles en Bourgogne de chapiteaux romans, et cet Alexandre n'est pas le moindre. Mais passons à la période suivante, parce que là nous avons parlé de la cathédrale romane, alors il nous faut achever cette séance et parler de la cathédrale gothique, qui sera la troisième et dernière partie de cette conférence. En effet, à l'époque gothique, on va décider de rebâtir la cathédrale. La cathédrale romane, pour différentes raisons, va donc faire l'objet d'un nouveau chantier. La cathédrale romane a sans doute été à peu près terminée, mais on décide, à partir du XIIIe siècle, de la reprendre, soit de reprendre des parties qui avaient été construites, mais qui peut-être n'étaient pas complètement, ou qui n'étaient pas en bon état, ou surtout qui n'étaient pas suffisamment à la mode pour affronter la nouvelle phase qui est celle de l'époque gothique. Donc on va rebâtir ou compléter la cathédrale précédente. D'abord en réalisant un nouveau chevet. Je vous rappelle que si aujourd'hui les deux premières travées du chœur datent du XIIe siècle, le chevet, lui, l'abside, si vous voulez, qui termine le chœur, date bien du début du XIIIe siècle. On va également reprendre la nef, mais la partie supérieure de la nef, hein, puisque les arcades romanes sont conservées, on vient de le voir. C'est les parties supérieures aux arcades romanes qui, elles, vont être reprises. Et puis bien plus tard, au XVe siècle, à la fin de l'époque gothique, on va ajouter, comme dans toute église qui se respecte, si j'ose dire, toute une série de chapelles latérales, le long des bas-côtés, mais également sur le côté sud, et d'ailleurs non aussi, sauf qu'elle a disparu, sur le côté sud de la nef. Voilà quels sont les chantiers de l'époque gothique. Alors, je vous montre en élévation et en coupe ce que je viens de vous montrer en plan. Voilà ce que cela donne en coupe. Vous voyez que le chevet du chœur date donc de l'époque gothique, tout comme, bien sûr, la partie supérieure des deux travées qui ouvrent le chœur, dont la partie basse est romane, je vous le rappelle, mais dont la partie haute est forcément gothique. On a également repris à l'époque gothique certains éléments de l'élévation du transept et la partie supérieure. Et puis à l'époque gothique aussi, on a totalement reconstruit ou même bâti la partie supérieure de la nef. J'espère que ces schémas vous permettront de mieux visualiser les reprises successives du monument qui nous intéresse. Revenons donc dans le chevet de la cathédrale. Je vous ai montré tout à l'heure une photo un peu comparable pour vous parler de la partie inférieure qui est romane. Mais regardons cette fois la partie supérieure qui, elle, est gothique, qui a été réalisée dans les années 1220, dans la première moitié du XIIIe siècle. Et cette partie du chevet nous montre, vous le voyez, au-dessus des arcades romanes, un triforium à trois baies, un triforium aveugle d'ailleurs, hein, mais assez élancé, devant lequel, qui sert également de passage dans la partie inférieure. Et vous voyez qu'au-dessus, il y a un niveau supérieur avec des grandes fenêtres hautes au pied desquelles se trouve un passage. Voilà donc au-dessus des arcades romanes, le triforium aveugle, et puis les fenêtres hautes avec ce passage, avec des garde-corps quadrilobés. Voilà donc cette élévation réalisée au début du XIIIe siècle, dans les années 1220, au-dessus des arcades romanes. On peut s'étonner du fait que le XIIIe siècle ait voulu garder les arcades romanes et pas reprendre la totalité de l'élévation, mais après tout, je vous rappelle quand même que la partie inférieure du chœur, tout comme la partie inférieure de la nef, sont à mettre en lien avec la grande construction clunisienne de Cluny III. Est-ce qu'au XIIIe siècle, on va mettre à bas ce qui correspond finalement à une référence, à un héritage on ne peut plus prestigieux, c'est-à-dire l'héritage de Cluny. Garder des éléments romans à l'époque gothique était une manière de conserver les reliques, un signe de cette influence clunisienne de laquelle on se recommande. Notez que le chœur lui-même, le chevet-chœur, l'abside du chœur, a par contre été totalement reprise au XIIIe siècle. Là, depuis la partie inférieure et ses très belles et grandes fenêtres très élancées, jusqu'au triforium que nous avons vu dans les travées avant et aux fenêtres hautes avec toujours ce passage, voilà une élévation qui a été entièrement de la base jusqu'à la voûte réalisée au XIIIe siècle. C'est un chœur polygonal que celui-ci. Et ce qui peut être surprenant dans ce projet réalisé au XIIIe siècle, dans la cathédrale, c'est, je dirais, sa relative modestie. On aurait pu s'attendre au XIIIe siècle à ce que le clergé propose un déambulatoire, des chapelles rayonnantes, bref, ce que l'on voit partout. C'est-à-dire qu'on donne à ce chœur que l'on voulait enrichir un aspect encore plus monumental. Eh bien non, on se contente de faire des fenêtres basses, un triforium, des fenêtres hautes, et c'est tout. Il est vrai qu'il n'était pas du tout évident de faire davantage, parce que je vous rappelle quand même que la cathédrale bute sur l'ancien rempart romain. Il y a guère d'autres solutions pour aller plus loin. Et puis, de toute façon, le tissu urbain alentour était extrêmement dense. Imaginer de déployer davantage ce chœur à l'époque gothique n'allait pas de soi, d'autant que tout cela coûte cher et que peut-être aussi les fonds en manquaient. Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est que finalement, ce programme du chœur de la cathédrale de Châlons, au début de l'époque gothique, dans les années 1220, est un programme, je dirais, assez limité, assez modeste, mais par contre d'une très grande qualité. Ce que d'ailleurs l'état actuel à l'intérieur de la cathédrale ne laisse peut-être pas trop percevoir. Vous avez là, avec ce chœur, une élévation, j'allais dire, absolument impeccable. On a là un gothique des années 1220, idéal, parfait, qui n'est pas trop fla-fla, si vous me permettez l'expression, un gothique qui n'en fait pas trop, qui fait juste ce qu'il faut. On a là un gothique épuré, très bien calculé, impeccable. J'allais dire que si la quantité n'y est pas, la qualité, elle, y est. On a d'ailleurs quelque chose qui souvent a été comparé, par exemple, à Notre-Dame de Dijon, qui est aussi un de ces bijoux du gothique de la première moitié du XIIIe siècle. Là, on a l'équivalent. Alors, tout ça est un peu grisouille aujourd'hui. Peut-être ne nous permet pas de voir ça. Mais le chœur de la cathédrale de Châlons est un petit chef-d'œuvre de cet art gothique du début du XIIIe siècle. Et c'est bien avec ces nudes-là, je crois, qu'il faut le revoir. En plus, un décor sculpté permet d'enrichir le chœur de la cathédrale. On le voit peut-être pas toujours très bien, mais il y a notamment à la base de la partie supérieure des arcades du triforium ces petites têtes sculptées très typiques du XIIIe siècle et qui enrichissent les décors. En voilà une autre, un masque feuillu, comme on les aime tant à cette période. Il y a même, quelque part, le buste d'un évêque bénissant, n'est-ce pas ? Toutes ces figures ne sont peut-être pas trop visibles quand on les regarde du bas, mais elles viennent quand même donner, enrichir encore ces décors de petits détails qui en font quelque chose de bien plus précieux qu'il apparaît a priori. Alors, après cette première phase des travaux de l'époque gothique datant des années 1220, il va y avoir un autre chantier qui, cette fois, va concerner la nef. Et on va au XIIIe siècle, gardant les arcades inférieures romanes, pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure, on va donc décider de construire le deuxième et le troisième niveau, le premier et le deuxième étage, pourrait-on dire. Hein. Et voilà donc ici une vue de l'élévation de la nef, avec en bas les arcades romanes, au-dessus le triforium, et enfin les fenêtres hautes. Et vous voyez, comme pour la nef à l'époque romane, à l'époque gothique, on va décider de créer une cohérence entre le chœur et la nef. On voit là la même élévation. Une des choses remarquables à Châlons quand même, cette espèce de tentative de cohérence à travers des étapes de construction qui, elles, sont incohérentes, si vous voulez. Et ça, c'est assez remarquable. C'est-à-dire qu'on va à Châlons, à l'intérieur de cette espèce de fourbi historique, et réussir, chose assez étonnante, à trouver de la cohérence là où, a priori, il y aurait pu ne pas en avoir. Cette volonté à l'époque gothique de reconstruire la nef a été réelle à partir de la première moitié du XIIIe siècle. Mais visiblement, les choses ont mis du temps, l'argent a peut-être manqué, on a commencé des travaux qui ont été ajournés. En fait, c'est vraiment à l'extrême fin XIIIe, tout début du XIVe siècle, que l'on va enfin véritablement achever la partie supérieure de la nef de la cathédrale avec ces deux niveaux dont je viens de vous parler. Je vous montre d'ailleurs ici la modénature des fenêtres hautes de la nef, très beau dessin de ces fenêtres hautes, très typique de cette fin XIIIe, début XIVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que la voûte elle-même va être réalisée à cette période avec un détail tout à fait singulier que vous connaissez tous et qui est cette sorte de rose intérieure qui est une singularité, une originalité de la cathédrale de Châlons que l'on voit guère dans beaucoup de monuments, hein, mais qui fait de l'exemple chalonnais un cas tout à fait singulier que l'on voit guère ailleurs. La cathédrale, la voûte de la nef de la cathédrale a été pour sa part terminée à la fois au XIVe et XVe siècle, comme le montrent d'ailleurs les clés de voûte qui tamponnent, pourrait-on dire, la voûte en question. Vous avez là deux clés de voûte, celle notamment aux armes de Nicolas de Vert, celle aux armes de Philibert de Sceaux, deux évêques à Châlons pour le premier dans la deuxième moitié du XIVe siècle, pour le second dans la première moitié du XVe siècle. On voit bien comment le chantier de construction de la partie supérieure de la nef s'étale vraiment sur une longue période, programmée dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, véritablement commencée à la fin du XIIIe siècle, continuée au début du XIVe. La construction se termine vers la fin du XIVe et le voûtement vers le début du XVe siècle. Hein. Voilà un chantier qui se tire en longueur, mais qui malgré tout propose une grande cohérence. En tout cas dans le résultat final. Chose intéressante d'ailleurs, l'une des clés de voûte de la nef représente ce diacre tenant un livre et la palme du martyr. Ce diacre-là, c'est sans doute Saint Vincent lui-même, le patron de l'Église. Je terminerai cet exposé en évoquant bien sûr les chapelles des bas-côtés qui font l'objet d'une troisième et dernière vague de construction à l'époque gothique, mais qui là est beaucoup plus tardive puisqu'il s'agit du XVe siècle. Et vous savez que, rebelote, il y a à Châlons une singularité, tout comme cette rosace intérieure que je vous montrais précédemment, qui sont les chapelles des bas-côtés. Ces chapelles qui datent du XVe siècle, du moins pour un certain nombre d'entre elles, ont été fermées par des grilles de pierre, comme il en existe quelques-unes dans d'autres monuments de la région. Je pense à Saint-Martin-de-Lèves, je pense aussi à Saint-Julien-à-Sensé. Mais enfin, tout cela ne court pas les rues, et vous avez à Châlons, dans le bas-côté droit, toute une série de ces grilles de pierre qui ferment les chapelles et qui constituent vraiment une originalité de ce cas chalonnais. Vous savez d'ailleurs que l'une des chapelles, la chapelle qui est le plus à l'est du bas-côté sud, propose à l'intérieur, il s'agit de la chapelle Lamoureux, de très belles peintures murales du XVe siècle représentant l'Assomption et la Dormition de la Vierge. Enfin, la Dormition et l'Assomption, pour aller dans le bon sens. On a donc là un très bel exemple de peinture, encore largement conservée, d'ailleurs restaurée, il y a quelques années. Alors voilà donc ce que je voulais de manière liminaire et rapide vous montrer de cette cathédrale, dont vous voyez qu'elle est extrêmement complexe. Alors j'aurais pu vous parler de bien d'autres choses. Hein. Par exemple, j'aurais pu vous parler d'un certain nombre de bâtiments connexes à la cathédrale elle-même. Et par exemple du cloître Saint-Vincent, sauf que vous connaissez tous, et que vous avez tous, et ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire dans les jours qui viennent, été visité avec l'équipe de Chalon, ville d'arrêt d'histoire, ou pays d'arrêt d'histoire, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, hein, tout ça change beaucoup, mais Christelle nous le dira mieux. Hein. Vous avez certainement tous visité ce cloître qui a fait l'objet, vous le savez, de travaux de restauration récents, qui ont même permis, vous le savez aussi, au-delà du cloître médiéval, largement construit au XIVe siècle, avec d'ailleurs toute une série de chapiteaux très savoureux, comme cette tête grimaçante que vous voyez là, travaux qui ont permis de restituer au cloître sa volée septentrionale, hein, qui avait existé, qui avait disparu, qui a été restituée, et vous en voyez d'ailleurs ici une vision. Je ne vous parlerai pas davantage d'autres éléments qui, après tout, font partie de ce contexte de la cathédrale, et notamment de la tour du Doyenné, hein, qui est aujourd'hui plantée sur l'île Saint-Laurent, mais dont vous savez qu'à l'origine, elle était dans la cour du Doyenné, à l'arrière de la cathédrale. Et vous avez là cette carte postale qui vous montre l'ancien emplacement de la tour avant qu'elle soit démontée, vendue, donnée à la ville de Chalon et reconstruite là où elle est aujourd'hui. Tout cela, vous le savez, je passe donc vite sur ces éléments qui, évidemment, mériteraient des développements plus nombreux. Je préférerais simplement, en guise de conclusion, insister sur quelques éléments mobiliers de la cathédrale. Vous savez en effet qu'il y a dans la cathédrale de Chalon, c'est peut-être des choses qu'on ne regarde pas assez, des ensembles mobiliers tout à fait intéressants. Je pense par exemple à cette plate-tombe de la famille Baillet qui date du milieu du XVe siècle, qui est tout à fait remarquable en entrant à droite, n'est-ce pas, dans la cathédrale. Très bel exemple de plate-tombe médiévale. Je pense aussi à ce baldaquin du tombeau de Jean Poupet, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui avait, au XVe siècle, repris la façade de la cathédrale. Le tombeau a disparu, le baldaquin est resté, il sert aujourd'hui de dais au siège quasi épiscopal que vous voyez en dessous. Mais on pourrait aussi parler de l'extraordinaire tapisserie ornée, vous le savez, du mystère de l'Eucharistie, réalisée sans doute à Bruxelles au début du XVIe siècle, qui est un très important exemple d'une tapisserie fin Moyen-Âge, début Renaissance, si vous voulez. On pourrait également parler des vitraux de la cathédrale et surtout de ce fameux vitrail de la Vierge de l'Apocalypse, datable du milieu du XVIe siècle. On pourrait parler également des peintures qu'il y a dans la cathédrale. Non pas des peintures murales, j'en ai dit un mot déjà, mais des peintures mobilières. Et vous savez que Chalon a la chance de posséder à la cathédrale une œuvre importante de Grégoire Guérard, hein, le nouveau-né de la peinture renaissante bourguignonne, hein. On n'a pas le temps de parler beaucoup ici, mais dont la cathédrale possède ce volet de retable avec d'un côté la présentation au temple et de l'autre l'annonciation. Mais il y a également la cathédrale de Chalon, car chaque siècle a sa peinture, la cathédrale. Ce très beau triptyque de Richard Tassel, le père du grand Tassel, et qui date du début du XVIIe siècle. Pour le XVIIIe siècle, on pourrait citer ce très beau tableau de l'épicier représentant bien sûr Saint-Vincent, et pour les 19e siècle, n'oublions pas le 19e siècle, ce très beau tableau de Yvon qui représente Saint-Paul qui baptise son geôlier dans sa prison. Vous voyez que la cathédrale, au-delà de son architecture complexe, un peu difficile à appréhender, mais dont j'espère que vous la comprendrez mieux aujourd'hui, la cathédrale est une sorte de musée d'œuvres d'art dont je vous montre là rapidement que quelques éléments. Je terminerai évidemment par l'orgue remarquable, hein, un orgue du 18e, mais placé là au 19e siècle, l'orgue de Tribuaux, restauré il y a quelques années, et qui complète de manière très favorable ce monument chalonnais. Voilà, j'espère qu'en cette heure et quart, j'aurai réussi, non pas à vous apprendre des choses, hein, mais en tout cas peut-être à vous faire regarder ce monument nous voyons comme ça, avec ces deux tours qui couronnent encore une fois les toits de la ville, mais qu'il nous faut peut-être un peu mieux reconsidérer aujourd'hui. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup. On peut passer à la séance des questions, si vous le souhaitez, si vous avez des précisions à apporter, ou enfin des questions à poser. Et puis éventuellement, si Christelle Morin veut dire quelques mots complémentaires, c'était bien volontiers que l'on l'accueille ici. Voilà. Donc je rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, Christelle Morin-Dufoy qui s'occupe du patrimoine de la ville de Châlons. Voilà. On commence par les questions peut-être ?
Moi j'en aurais.
Bon, voilà. Mais ça c'est la deuxième question. Alors la première, pas de questions ? Oui. D'où venaient les pierres ?
Christelle répondra voilà. Dans un instant, mais moi je vais répondre de manière comme ça, un peu sans filet, certainement de carrière locale. Vous savez qu'au Moyen-Âge, en général, on construit avec le matériau qu'on a sous la main. Hein. Je suppose que la côte chalonnaise, qui est prolifique en la matière, a dû fournir une bonne partie des pierres en question. Je ne sais pas, par contre, d'où viennent les pierres des tours de la cathédrale construites par Chenavard. Ça, enfin voilà. Ça, on le sait.
Alors, en ce qui concerne les tours de la cathédrale, je vous avoue que je suis venue en touriste, hein, je n'ai pas révisé, mais on a les pierres, puisqu'on avait fait une expo en 2006, justement, au moment de la campagne de travaux. Là, je regarde les collègues s'ils l'ont en tête, mais on a les carrières qui ont été utilisées. Il y avait même, d'ailleurs, une carrière qui n'existe plus, donc il a fallu, au moment de la restauration, trouver une pierre similaire, locale, d'ailleurs. Mais ce n'était pas non plus des pierres qui venaient de très très loin, de toute façon. Concernant l'édifice lui-même, et c'était un peu ce que je voulais aborder, je trouve que cette conférence arrive vraiment à un très bon moment, puisque vous le savez peut-être, après la restauration du cloître, on va attaquer ce qui était prévu initialement juste après la restauration de la façade, c'est-à-dire la restauration de la totalité de l'intérieur de la cathédrale. En fait, on avait dû revoir un peu notre plan parce que malheureusement le cloître menaçait de s'effondrer. Donc les travaux de l'intérieur de la cathédrale s'étaient arrêtés de façon très brutale. Et c'est vrai qu'ils avaient deux travées très, très blanches, très claires, restaurées. Et puis ça s'était arrêté là. Il y a eu 10 ans pour restaurer le cloître. Et maintenant que le cloître est effectivement restauré, on redémarre normalement dès 2022 la restauration de la cathédrale. Non, et moi, j'attends beaucoup de cette restauration. Alors, évidemment, la restauration elle-même, mais de tout ce qu'on va apprendre. Parce que le cloître, enfin, moi, personnellement, je suis devenue extrêmement humble. Hein. Pendant des années, j'ai raconté que le cloître était du XIVe siècle. On sait maintenant que les murs du cloître sont de l'an 1000. Voilà, donc la cathédrale, je pense qu'on aura aussi, alors peut-être pas des surprises aussi importantes, mais je pense que c'est bien de faire un peu un état des lieux avant-après, et là je remercie beaucoup Mathieu pour cette présentation, parce que c'est très intéressant de voir ce qu'on va découvrir quand on va nettoyer les murs, quand on va rentrer dans le détail au niveau des sculptures, etc., et je pense que ce sera intéressant de refaire quelque chose après, justement.
D'autres interventions ou questions ? Vous pouvez venir plus près, là, que tout le monde entende votre question. Venez là, venez poser votre question.
C'est comme à la télé.
J'avais entendu pour vous dire aussi qu'il y avait un passage entre Saint-Marcel et la cathédrale, ce qu'on appelle un souterrain, qui passait sous la Saône. Vous avez entendu ça aussi ? Et on m'a dit un jour que c'était à gauche en entrant. Sous les dalles, il y aurait un passage, mais qui a été effondré et qui n'existe plus. Et puis quand on étudie la Saône, elle vous fait un espèce de bateau comme ça, avec des guets. Et ces guets, autrefois, paraît-il, on pouvait les passer à pied. Hein? Alors on se demande si finalement ce fameux souterrain ne serait pas sous un guet. Et puis je terminerai par une autre question. Pourquoi cette cathédrale ? Dans beaucoup de cathédrales dans le monde, on monte, puis celle-là, on descend. Pourquoi ?
Là aussi, je vais répondre sans filet, mais Christelle corrigera après. Hein. Pour ma part, je ne crois pas trop à ces histoires de souterrains, mais parce qu'il y a des souterrains partout. Alors moi, je suis mieux placé pour la cathédrale pour en parler à Germolles. Hein. À Germolles, tout le monde dit qu'il y a des souterrains qui vont partout, etc. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Enfin, il y a des choses sous terre, mais des souterrains, non. Donc je ne crois pas trop à des souterrains entre Saint-Vincent et Saint-Marcel, mais vous verrez. Le fait qu'elle descende, elle doit pas, elle descend peut-être pas beaucoup d'ailleurs, je sais pas. Bon, il y a des cathédrales qui montent ou qui descendent. Hein, vous connaissez celle de Moulins qui est assez curieuse, hein, où on monte, voilà. Et comme vous le disiez d'ailleurs, monsieur, je pense que la topographie y est pour beaucoup. Hein. D'ailleurs, le sol de la cathédrale a été repris au XIXe siècle, il a été un peu remonté, si ma mémoire est bonne, hein, celui du cloître dans une partie aussi d'ailleurs. Voilà. Mais Christelle, je vous laisse.
Alors, pour compléter concernant ces histoires de... Enfin, effectivement, pour moi, ça fait partie des légendes urbaines. C'est-à-dire qu'on trouve toujours des tunnels qui vont... Quand j'étais à Dieppe, autrefois, on nous disait qu'il y avait un tunnel entre le château d'Arc et le château de Dieppe, sauf qu'il y en avait un de l'an 1000 et l'autre du 15e siècle, donc ça ne pouvait pas coller. Ici, je pense que ce qui a pu amener ces idées, c'est tous les caveaux qui existaient. Qui pour beaucoup ont été d'ailleurs spoliés une première fois pendant les guerres de religion, une seconde fois au moment de la Révolution française, et qui donc faisaient un peu comme des départs effectivement de souterrains, et la Saône n'est pas si loin. Et là où je vous rejoins complètement, monsieur, c'est sur effectivement les passages à gué qui étaient extrêmement nombreux, il y en avait 8 rien que sur Chalon, et jusqu'aux années 1830, c'était la façon la plus simple de traverser la Saône à pied. Ça, on est parfaitement d'accord là-dessus. Donc effectivement, je pense que plusieurs vérités, on a peut-être à coller un petit peu tout ça pour en faire quelque chose de joli, mais je ne suis pas certain que ça ait vraiment un sens plus profond. En ce qui concerne par contre, ça y est, j'ai perdu le fil.
La descente.
Il y a la question de la topographie. Bon, c'est vrai que les Romains ont surélevé le castrum hein, quand ils ont construit la muraille. C'est le problème qu'on a eu avec la façade, c'est-à-dire que la façade 19e, n'avait pas des... Alors, ce n'est pas de la faute de Chenavard, parce que Chenavard avait prévu des fondations plus solides, et puis on lui a dit non, ça coûte trop cher. Donc, il a dû garder les fondations médiévales, et il a élevé les tours 19e au-dessus. Et du coup, on s'est retrouvé avec, effectivement, un affaissement, ce qui nous a amené à faire les travaux des années 2000. Mais ça signifie bien qu'on a un sol, quand même, de remblai en dessous, donc un sol qui bouge, et qui peut être amené à... Voilà, basculer. Dernière chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le chevet de la cathédrale, pourquoi ça ne s'était pas étendu? Je dirais qu'au-delà, c'était la ville de l'évêque aussi. Ce n'est pas seulement qu'il y avait des habitations, parce que très clairement, dans d'autres villes, enfin, moi je suis originaire du Mans, ils se sont étendus, il y avait la muraille, ils ont viré la muraille pour pouvoir étendre le chevet. Mais ça ne gênait pas pareil. Là, il aurait fallu détruire des maisons de chanoines, une partie peut-être du palais de l'évêché, etc. C'était quand même beaucoup plus ennuyeux. Donc, effectivement, on s'est tenu dans un périmètre. Puis je finirai peut-être avec juste un petit coup de pub, parce que vous êtes nombreux ici. Et il y a un truc qui est quand même très intéressant aussi, c'est les fouilles archéologiques. Je pense d'ailleurs qu'il y en aura en lien avec les travaux de la cathédrale, en tout cas en termes d'archéologie du bâti. On a actuellement à l'Espace Patrimoine une exposition qui s'appelle « Secret d'un cloître » et qui montre ce que vous ne pouvez pas voir et ce que vous ne pourrez pas voir en visitant le cloître, c'est-à-dire les fouilles qui se sont déroulées sur le site et qui nous ont permis de découvrir une occupation continue du site du IIe siècle jusqu'au XIVe, enfin jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant par rapport à ce que vous disiez aussi au début, c'est-à-dire que non, on n'a pas retrouvé l'Ecclesia, mais on a retrouvé la Domus Ecclesia, c'est-à-dire la maison de l'évêque, ce qui est quand même déjà extraordinaire, avec des morceaux de marbre, des morceaux de porphyre, et ça va tout à fait avec les témoignages écrits. En fait, ça qui est intéressant, c'est quand l'archéologie et les archives se recoupent, là on commence à trouver... Enfin, tous ceux qui croient qu'il n'y a jamais d'actualité en archéologie, en histoire, et c'est faux. Hein. il y a beaucoup de choses qui se renouvellent, et là on redécouvre vraiment l'histoire de ce quartier. En tout cas, merci. Moi, j'ai trouvé que cette conférence était très intéressante. Et contrairement à ce que vous disiez au début, c'est toujours extrêmement rafraîchissant d'entendre un autre son de cloche que ce qu'on peut soi-même répéter de façon un petit peu routinière.
C'est gentil.
Merci. Donc, merci d'avoir participé à cette conférence, puisque vous apportez des compléments. Puis je pense que les guides, mais ils seront modestes, diront aussi qu'ils ont apprécié cette conférence qu'on apprécie toujours. Avec Mathieu Pinette, on apprécie toujours. Donc, merci encore et à une prochaine conférence. Voilà.